l'Esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Jésus, va nous donner à recevoir ce qui va correspondre à la nourriture au temps convenable. Voilà, nous croyons ce soir que notre Dieu qui est au milieu de nous, notre Père, lorsqu'il rassemble son peuple, nous avons chanté ce cantique, quand le peuple de Dieu se rassemble pour louer et adorer Jésus-Christ, et nous avons même mentionné dans le cantique que c'est comme un parfum de bonne odeur. Alléluia. Et au travers ce que Dieu, dans sa grâce, peut, par son esprit, mettre dans nos cœurs ce soir, eh bien, nous sommes exactement sur le bon terrain, celui qui consiste pour nous, comme enfants de Dieu, à comprendre l'importance de mettre à profit ces moments pour glorifier notre Père. Nous souvenons que tout ce que notre Dieu fait, dans tout ce qu'il fait, le but qu'il poursuit est que son nom soit glorifié. Et notre Seigneur Jésus-Christ, dans l'évangile, je crois, de Luc, lorsque les apôtres sont revenus de mission, eh bien, ils se sont exclamés devant le Seigneur, disant, « Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. » Et puis Jésus va leur confirmer, va confirmer leur dire, en faisant cette déclaration, « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. » Cela veut dire que sur l'envoi de ses apôtres en mission, dans le plan de Dieu, sous l'action du Saint-Esprit, la puissance de Satan dans les lieux atmosphériques a été ébranlée. Et Jésus a confirmé qu'il voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Cependant, leur dira-t-il, ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous sont soumis. Certes, c'est un sujet de joie de voir qu'une autorité diabolique est soumise à un enfant de Dieu agissant dans la foi au nom de Jésus-Christ. Mais il leur dit, réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. Amen. Et si votre nom est inscrit dans les cieux, ce n'est pas dans les cieux, dans les nuages, hein. C'est plus, d'après le témoignage de l'Écriture, dans le livre de vie de l'agneau. Et c'est là une des garanties de l'enfant de Dieu qui découle des paroles de Jésus. Celui qui croit en moi, il a la vie éternelle. Parlant de ses brebis, le Seigneur va mentionner non seulement qu'elles le suivent, qu'elles connaissent sa voix, qu'elles ne suivront pas à la voix des étrangers, mais qu'elles fuiront loin d'eux. Et puis, dira-t-il, mes brebis, je leur donne la vie éternelle. Et puis, il rajoute, et elles ne périront jamais. Confirme, mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Et pour qu'il n'y ait pas d'équivoque, moi et le Père, nous sommes un. Je l'avais dit, derrière ces paroles, je peux comprendre que mon âme, ton âme, nos âmes, dans la main du bon berger, sont en pleine sécurité. Et puisque notre âme est en pleine sécurité dans la main du bon berger, qu'est-ce que le maître a fait? Il nous a délivrés de la crainte de la mort. Assurance complète, totale, qui me donne à confesser avec force, avec ferveur, que je sais en qui j'ai cru. Et comme l'apôtre, je sais que celui en qui j'ai cru, il a le pouvoir de garder mon dépôt. Je veux dire, il y a ce mot dépôt, il y a toutes les promesses contenues dans l'Écriture, dont ma foi s'empare, qui vont nourrir ma foi, en même temps qu'elles nourrissent ma foi, elles vont me plonger dans la patience. En me plongeant dans la patience, et vont produire en moi des éléments pour la persévérance. Ce qui nous montre, frères et sœurs en Christ, que comme enfants de Dieu ce soir, Dieu a pris soin de préparer en amont tout ce qu'il fallait pour que non seulement je puisse rentrer dans son plan de salut, mais que je puisse être bénéficiaire de tout ce qui en découle. Certes, on le voit tout à l'heure, la vie chrétienne, je ne vais rien vous apprendre de nouveau, c'est une vie de combat et d'épreuve. Non ? Je ne vous dis rien d'étrange, non. Mais béni soit Dieu, c'est aussi une vie de victoire. Au travers de laquelle Dieu, dans sa grâce, permet que même si je passe par certains chemins où malheureusement je peux être confronté à des situations qui sont quelquefois difficilement supportables, difficilement acceptables, et que si je ne veille pas, en restant sur le bon terrain des saintes écritures, peuvent produire en moi, je parle à partir de ma vieille nature, ce qui ressemblerait à l'encontre de mon Dieu, à de la rébellion. Mais un enfant de Dieu n'est pas un rebelle. Un enfant de Dieu, lorsqu'il passe par l'épreuve, il fléchit les genoux, s'humilie devant son Père, il crie à lui. Et comme on va le voir tout à l'heure dans les Écritures, le Seigneur s'est délivré de l'épreuve des hommes pieux. Nous sommes dans sa main ce soir. Amen. Ma part, je sais qu'une chose, c'est que quand Dieu permet que je puisse passer par une épreuve, dans l'épreuve, il n'est pas nécessairement là pour me donner toutes les informations que je souhaiterais avoir. Parce que dans l'épreuve, il y a des fois des pourquoi, résultat de l'incompréhension qui accompagne l'épreuve. Pourquoi Dieu permet-il cela? Et quelquefois, nous posons même des questions à Dieu. Et il semblerait que les questions que nous lui posons, eh bien, il n'apporte jamais de réponse. Mais ce n'est pas parce que Dieu reste silencieux, comme je l'ai déjà dit, qu'il est pour cela inactif. Il peut être silencieux, mais ce n'est pas pour ça qu'il est inactif. Et nous allons regarder ce soir, mes bien-aimés, dans le livre du prophète Jérémie. Et nous allons trouver ce qui ressemblera fortement, d'après ce que nous allons lire, Lamentation, le chapitre 3, Lamentation de Jérémie, chapitre 3, verset 57. Verset 57, et nous allons aller jusqu'où le Saint-Esprit va nous conduire. Lamentation de Jérémie, le chapitre 3, verset 57. Mais si vous préférez, si vous voulez, on peut même prendre un peu plus haut. Ça ne fait pas de mal de prendre à partir du verset, même 54. Les eaux ont inondé ma tête. Et quand les eaux inondent votre tête, cela veut dire que vous êtes en train de vous... Voilà. Les eaux ont inondé ma tête. Je disais, je suis perdu. Et à la place du prophète Jérémie, si les eaux inondaient ma tête et que c'était difficile pour moi, eh bien, j'ajouterais que ma noyade n'est pas loin parce que je ne suis pas un champion de la natation. Écoutez, moi, je me l'applique tout de suite à moi. Peut-être que si c'est vous, vous savez nager, alors vous allez vous en sortir. Mais si les eaux inondent ma tête, je crains que point d'interrogation. Je disais, je suis perdu. J'ai invoqué ton nom, ô Éternel, du fond de la fosse. Tu as entendu ma voix. Ne ferme pas l'oreille à mes soupirs, à mes cris. Et le verset 57 va ouvrir le terrain de notre méditation ce soir en considérant la pensée du Saint-Esprit. Au jour où je t'ai invoqué, dites avec moi, tu t'es approché. Tu as dit, ne crains pas. Seigneur, en t'approchant, tu as défendu la cause de mon âme. En t'approchant, tu as racheté ma vie. Et puis, à partir du verset 59, il va en quelque sorte exposer ce qui est l'objet de sa souffrance et de tout le reste éternel. Tu as vu ce qu'on m'a fait souffrir. Alors après, rends-moi justice. Nous sommes confrontés, frères et sœurs en Christ, à une situation que je qualifierais de particulière. C'est un homme qui, lorsque nous lisons ce texte, est un homme soucieux. Ça vous est déjà arrivé dans la vie chrétienne d'être soucieux? Ben oui. On est soucieux, c'est un homme soucieux. Et en plus d'être un homme soucieux, c'est un homme qui est préoccupé. Parce que c'est un homme qui est éprouvé. Soucieux, préoccupé, éprouvé. Et nous pourrions trouver d'autres qualificatifs pour expliquer la situation que vit cet homme. Cet homme de Dieu nommé Jérémie. Mais malgré tout, frères et sœurs en Christ, si c'est un homme soucieux, si c'est un homme préoccupé, si c'est un homme éprouvé, mais c'est néanmoins un homme espérant. C'est un homme espérant qui, malgré tout ce que nous pourrions voir sous l'aspect extérieur, est néanmoins dans le plan de Dieu. Il est dans le plan de Dieu et il est dans la main de Dieu. Mais par rapport à la situation qu'il vit, eh bien sa déclaration va être celle d'un plaidoyer, qui va adresser en quelque sorte comme un réquisitoire pour exposer tout ce qu'il vit et tout ce à quoi il est confronté. Non que Dieu ne le sache pas, mais la situation qu'il vit est tellement particulière, eh bien qu'il répand son âme devant Dieu, nous l'avons lu, et il va en quelque sorte comme être conduit à se manifester comme un plaidoyer qui expose la situation qu'il vit pour pouvoir répandre son âme comme dans un réquisitoire. Victime de l'injustice de la part des hommes. Vous est-il déjà arrivé d'être victime de l'injustice? Oui, ça nous arrive quelquefois d'être victime de l'injustice de la part des hommes. Mais étant victime de l'injustice de la part des hommes, dans son réquisitoire, eh bien, il appelle à la justice de Dieu. Vous savez, frères et sœurs en Christ, lorsque nous sommes devenus enfants de Dieu, Eh bien, Dieu ne nous a jamais promis que tout dans notre vie serait rose, que le ciel serait toujours bleu, que les vents nous seraient toujours favorables. Parce que nous avons un ennemi qui est acharné et quelquefois il va utiliser tout et des éléments malheureusement insignifiants pour essayer de nous contrecarrer dans notre avancée vers la patrie céleste, dresser devant nous des obstacles pour que s'il était possible, nous soyons fatigués de buter contre la même chose. Nous serions avec la fatigue bien conduits au découragement et à la lassitude, afin que s'il pouvait, il nous arrête dans le chemin de la persévérance et nous fait sortir du cadre du plan béni que Dieu a préparé et qu'il veut mettre en évidence dans nos vies. Est-ce que vous dites amen? Jérémie est dans le plan de Dieu. Et tellement il est dans le plan de Dieu, je me suis permis de regarder, pour le partager avec vous, ce que dans le sens étymologique du nom Jérémie, dans le plan de Dieu, je peux retirer. Je l'ai retiré pour moi, mais je veux que nous le retirions ensemble. Qui sait ce que ça signifie, le mot Jérémie? Est-ce que quelqu'un le sait? Est-ce que quelqu'un le sait? Non, pasteur, on ne le sait pas. Mais moi, j'ai trouvé que Jérémie signifie littéralement que l'Éternel a placé. Que l'Éternel a placé. Je l'avais dit, Dieu l'a placé dans son plan. Dieu l'a béni dans son dessein. Et lors de sa vocation, son appel, Dieu va lui dire, Jérémie, avant que tu aies été formé dans le sein de ta mère, le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sortes du sein maternel, je t'avais établi prophète des nations. Que tu plantes, que tu arraches, que tu ruines, etc. Et vous savez quelle a été la réponse de Jérémie sur cette déclaration de l'Éternel? Parce que si Dieu le dit, il sait ce qu'il dit. Et s'il le dit, c'est parce qu'il a préparé cela depuis les temps anciens. Jérémie a dit, Éternel, je suis un enfant. Je ne sais pas parler. Et Dieu a dit, ne dis pas que tu es un enfant, ni que tu ne sais pas parler, car tu iras vers tout ce vers qui je t'envoie, et tu lui diras tout ce que moi je t'ordonne de leur dire. Donc c'est un homme qui est dans le plan de Dieu. Il est dans le plan de Dieu. Et le verset 57 que nous avons lu, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, c'est ce que moi j'ai appelé une divine approche, résultat de la prière. Ça vous arrive de prier le Seigneur? Oui. Tout au long de la vie chrétienne, eh bien, nous avons une vie de prière. Mais quelquefois, nous prions le Seigneur, il n'y a pas de divine approche. Hein. Mais Jérémie en a fait l'expérience. Je t'ai invoqué, alors tu t'es approché. Cela veut dire que quand je suis dans le plan de Dieu, même quelquefois au fond du gouffre, parce qu'il est au fond du gouffre là, les eaux inondent sa tête. De telle manière que, tellement l'épreuve est conséquente, ailleurs il dit, alors je dis, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Mais c'est le saut même. Lorsqu'on est descendu tellement bas, on n'a plus d'espérance. Alors si on n'a plus d'espérance, ça veut dire qu'on est en pleine désespérance. Mais même quand je suis dans la désespérance, que je suis tombé très bas, ce n'est pas pour cela que Jérémie n'était pas un prophète. Il était dans le plan de Dieu. Donc la divine approche sera accompagnée de ce que moi j'ai appelé une parole dite à propos. Tu t'es approché et tu as dit, que Dieu s'approche, béni soit-il. Mais s'il s'approche pour rester silencieux, mais qu'il s'approche et me donne une parole de consolation, une parole d'espérance, une parole de délivrance, c'est pour me fortifier en conséquence en attendant son intervention, son action, c'est-à-dire qu'il me fasse justice, qu'il me fasse sortir du gouffre et que je reprenne avec lui la marche, un peu comme il veut faire pour toi ce soir, mon frère, ma soeur, qui y est confronté et qui, te promenant des regards inquiets, te gratte la tête, dit comment cela va-t-il se terminer. Eh bien, laisse-moi te dire que le Dieu de Jérémie ce soir, non seulement il est au milieu de nous, mais il est ton Père céleste. Alléluia. Alors, si nous regardons un petit peu, frères et sœurs en Christ, le déroulement du sujet dans Lamentation 3, verset 24. Dans Lamentation 3, 24, ça va corroborer un peu ce que je viens de vous dire. Pour montrer que malgré le fait que l'épreuve est là, avec l'épreuve la souffrance, avec la souffrance les soucis, avec les soucis la préoccupation, mais malgré tout, Jérémie est un homme qui espère. Et Lamentation 3, verset 24, oh, même nous pourrions le prendre un peu plus haut. Dans le verset 18, par exemple, pour confirmer ce que je viens de vous dire, Lamentation 3:18, et j'ai dit, dans l'épreuve, ma force est perdue, je n'ai plus d'espérance en l'Éternel. Parce que dans l'épreuve, frères et sœurs en Christ, quand je considère les choses à la mesure de ce que je supporte, que je subis, alors je peux avoir, un temps soit peu, comme ce que je viens de lire, que je définirais comme étant une confession négative. C'est ce que je lis, hein. Alors j'ai dit, il n'a pas dit je pense que, mais il a dit, donc une déclaration, ce qui est sorti de sa bouche. Mais quand quelque chose de négatif comme ça sort de ma bouche, Dieu entend. Vous êtes d'accord? Mais l'ennemi aussi entend. Mais autant Dieu va venir pour me dire, Claude, je viens à ton secours, je te fortifie. Mais autant l'ennemi aussi de mon âme va saisir ce qui est sorti de ma bouche et il va envoyer sa délégation de mauvais esprits pour essayer de titiller mon esprit, pour me conforter dans la négativité, afin que je puisse bannir toute confession positive. Ça veut dire inconsciemment, quand quelque chose de mauvais sort de ma bouche, l'ennemi de mon âme s'en empare et va agir contre moi. Tandis que quand c'est la foi qui me conduit à une confession positive en harmonie avec les Saintes Écritures, le Saint-Esprit entre en action et met Dieu à l'aise pour agir. Parce que n'oublions jamais, frères et sœurs en Christ, qu'en tant qu'enfant de Dieu, il y a toutes sortes de voix, tout autant dissonantes les unes que les autres, à laquelle je peux être confronté. Les voix de l'ennemi, pour m'assaillir, mais les voix de Jésus et du Saint-Esprit, en harmonie avec sa parole, pour m'encourager, me soutenir, me fortifier jusqu'à ce que je vois passer les calamités et que si mon Dieu agisse pour que l'étau soit desserré, pour que là où le trouble s'était installé, la paix revienne et quand la paix revient, alors j'ai de l'assurance en mon Dieu. As-tu ce soir de l'assurance en ton Dieu, mon frère? Lui as-tu adressé ta prière, ta requête? Malgré les soucis, malgré les épreuves, malgré tout ce à quoi tu peux être confronté, Dieu est un Dieu qui entend. Oh, je ne vous dirai pas, comme dit l'Écriture, lorsque malheureux qu'il était, ne l'entend, vous le connaissez mieux que moi. Mais après avoir entendu le cri du malheureux, et il le délivre de ses détresses. Mais au moment où Dieu entend et au moment où il agit, il peut s'écouler un laps de temps. Et pendant ce temps-là où je lui ai adressé ma prière et qu'il n'a pas encore répondu, c'est là que j'ai besoin de lui montrer que je demeure dans la foi. Écoutez, pendant que je vous parle, il y a un roi qu'on appelle Josaphat. Et ce récit se trouve dans le livre des rois, je crois, qui est confronté à une situation où une coalition de trois rois vont monter pour pouvoir attaquer Jérusalem et Juda. Première attitude, lorsque le roi entend cela, eh bien, pris de panique, la Bible nous dit que leur cœur s'est mis à trembler comme les arbres, les feuilles des arbres tremblent lorsque le vent passe. Mais ils ont adressé à Dieu la prière éternelle. La situation est celle que tu connais. Et devant cette grande multitude qui monte contre nous pour nous attaquer, nous sommes sans force et nous ne savons que faire. Mais nos yeux sont sur toi. Et savez-vous ce que Dieu a fait? La Bible nous dit que Dieu a saisi par le Saint-Esprit dans le peuple un Lévite nommé Jacaziel. Et Jacaziel, saisi par le Saint-Esprit, va parler au roi Josaphat, à tout Juda, de la part de l'Éternel. Écoutez-moi, Juda. Écoutez-moi, peuple de Dieu, et toi, roi Josaphat, dans cette affaire, ce ne sera pas vous qui combattrez. C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quelle assurance! Il répète deux fois la même chose. Et en plus de répondre deux fois la même chose, voici qu'il va se plaindre à donner des directives de la part de l'Éternel au roi et au peuple. Ce ne sera pas vous qui combattrez, mais demain, à cette même heure, vous descendrez contre eux. Et étant descendu contre eux, et vous verrez la délivrance que Dieu va vous accorder. Mais entre la déclaration et l'accomplissement de ce que Dieu veut faire, si je vous dis, demain vous allez faire telle chose, entre demain, le temps où vous devez faire la chose, et maintenant, il y a un laps de temps et il y a une nuit qui se prépare. N'est-ce pas? Demain, ça veut dire, demain c'est un autre jour. Mais entre l'accomplissement de ce que Dieu demande et le moment où il me dit la chose, il y a la nuit. Communément, sur le plan humain, on dit que la nuit, les chats sont gris. Mais je ne vais pas prendre ce paramètre-là. Cela veut dire que pendant que Dieu dit la parole, et le temps où la parole est sortie, et le temps de son accomplissement, je dois demeurer dans la confiance. Je n'ai pas à m'agiter. Dieu l'a dit, il va l'accomplir. C'est que la foi est dans un cœur, frères et sœurs, en Christ. La foi ne vit que par les promesses. Et quand Dieu dit une parole qu'il va accomplir, la nuit n'est pas un problème. Les éléments extérieurs ne constituent en rien l'arrêt de ce que Dieu a dit devoir faire. Mais c'est dans mon cœur que ça se passe. Si c'est entré dans mon cœur, ça va alimenter mon esprit. Ça va générer dans mes pensées, ce qui est conforme à ce que Dieu dit. Ce à quoi j'ai cru. Et dont j'attends l'attente et l'accomplissement. C'est ça la foi. Alors, comme Dieu a vu déjà dans le cœur du roi que la parole était reçue. La Bible nous dit que le lendemain, jour de l'accomplissement de la parole, le roi Josaphat s'est réveillé. Et sa déclaration, elle est celle-ci, tout à fait différente de ce qui s'est passé quand la coalition s'est levée pour monter, pour attaquer, lorsqu'il se lève le lendemain, suite à la parole donnée. Écoutez-moi, peuple. Confiez-vous en l'Éternel et vous réussirez. Mais confiez-vous en ses prophètes et vous serez vainqueurs. Puis d'accord avec le peuple, il va mettre devant l'armée des chantres qui, revêtus de leurs ornements sacrés, se mirent à chanter « Car tu es grand, car ta miséricorde durera toujours. » Rien n'est encore fait, mais leur attitude, qui pourrait un temps soit peu montrer sous l'aspect extérieur et amener certains qui n'ont pas compris le plan de Dieu, le dessein qu'il poursuit à cette réflexion, drôle de manière d'aller à la guerre, car lorsqu'on part à la guerre, on ne part pas à la guerre avec des chantres revêtus d'ornements sacrés, on part avec les lances, avec les épées, avec les boucliers, tout ce qui, sur le plan humain, va constituer des éléments de la victoire à venir, puisqu'il y a un combat à livrer. Mais écoutez, la parole était sortie, Dieu avait dit, ce ne sera pas vous qui combattrez. Dans cette affaire, vous n'aurez pas à combattre. Demain, descendez, et vous verrez. Alors le roi a dit, fortifiez-vous, confiez-vous en l'Éternel, et croyez en la parole de ses prophètes, et vous réussirez. Donc, devant l'armée, il met des chants qui revêtus d'ornements sacrés, bénissez Dieu en entonnant ces cantiques, car tu es grand, car ta miséricorde durera toujours. Et puis la Bible nous dit que lorsque Judas arriva sur les hauteurs, d'où on peut voir ce qui se passe dans la plaine, champ de bataille, ils virent une multitude de cadavres. Dieu avait dit, tu n'auras pas à combattre, mais demain descends et tu verras. Alors, que s'est-il passé? Dieu n'a fait qu'accomplir sa parole et sa promesse. Jérémie dit, au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché, c'est-à-dire une proximité de laquelle maintenant va ressortir la fortification dont j'ai besoin. Une approche d'où va sortir l'exhortation dont j'ai besoin. Fortifier, ça veut dire que Dieu va me donner des forces nous renouveler. Exhorter, il va m'encourager par la parole. Édifier, ce que je reçois va m'aider à grandir. Conseiller pour savoir comment je dois agir. Et après conseiller, consoler dans l'affliction que je peux connaître par rapport à la situation que je vis. Frères et sœurs en Christ, Jésus est au milieu de nous ce soir. Et quel que soit le chemin par lequel je passe, j'ai au travers de sa vie, son exemple, la réalité divine manifestée en chair au travers de la vie de Jésus. Et n'oubliez jamais que l'apôtre, dans Romains 8, 28, mentionne cela comme une déclaration qui n'est pas le fruit de ses pensées, mais qui serait en quelque sorte beaucoup plus le résultat d'expériences personnelles vécues où lui-même aussi a vu la main de Dieu. Nous savons du reste, dira-t-il, Romains 8, 28, que toutes choses concourent. Dites avec moi. Mais ce sont des classiques évangéliques que nous connaissons, n'est-ce pas? Mais n'oublions jamais qu'après avoir dit au bien de ceux qui aiment Dieu, mais il rajoute de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés, etc. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, classique évangélique, que je confesse quelquefois, mais le tout, ce n'est pas de confesser, c'est de croire et de vivre. Eh bien, Jérémie, le prophète, il était confronté à la situation. Mais loin de se retirer en arrière, comme un plaidoyer, il parle à Dieu. Et lorsqu'il dit « Je n'ai plus d'espérance en l'Éternel », c'est une confession qui pourrait sembler négative, mais à partir du verset 19, nous voyons qu'il fait dans ce réquisitoire, dans sa position de plaidoyer, « Quand je pense à ma détresse ». Donc il était dans la détresse, il a connu la détresse et à ma misère. À l'absinthe et au poison, comme mon âme s'en souvient. Cela veut dire que la situation était pour lui chargée d'amertume. C'est une situation qui le rendait dans l'amertume. L'absinthe, c'est amer. Le poison, ça empoisonne. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais malgré tout cela, il y a des choses que je veux repasser à mon cœur. Et ce que je veux repasser à mon cœur, c'est la manière que Dieu s'est adressé à moi lors de la vocation. Et quelquefois, quand nous sommes confrontés à l'épreuve, notre Seigneur, Jésus-Christ, par son Esprit, vient à notre secours et une des particularités consiste à nous rappeler d'où il nous a sortis. Mais en nous rappelant d'où il nous a sortis, il fait aussi mention de ce que nous étions en droit d'attendre si Jésus n'était pas venu dans nos vies. Maman, je ne sais pas pour vous, mais moi je sais que si le Seigneur n'était pas venu dans ma vie, il y a belle lurette, excusez-moi du thème, que j'aurais quitté la terre. Ah oui, j'aurais déjà quitté la terre. Mais il a eu pitié de moi. Comme il a pitié de nous ce soir, comme ses enfants. Et comme quelquefois il vient à notre secours, du jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Une divine approche. La divine approche n'est pas simplement une approche silencieuse, tu as dit. Et ce soir, au travers de ce que nous partageons, Dieu, pour toi, non seulement il s'approche par la puissance du Saint-Esprit, mais en s'approchant, il y a trois choses qui découlent de son approche. La première chose qui découle de cette approche en ta faveur, c'est la grâce. Il s'approche en grâce. Tout en sachant que tu n'es pas parfait. Car si Dieu attendait que je sois parfait pour s'approcher, je crains que cette approche soit très très difficile et je craindrais même qu'elle n'ait jamais lieu. Oui, mes bien-aimés, Dieu s'approche de nous en grâce ce soir. Éternel, si tu te souvenais de nos iniquités, qui subsisterait? C'est une réalité du psalmiste. Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin que l'on te craigne. Il s'approche en grâce. Tu n'es pas parfait, ni moi non plus. La perfection, Dieu le voit en Jésus-Christ. Mais tout en le voyant en Jésus-Christ, Dieu la voit en moi dans l'homme nouveau. Ah oui, l'homme nouveau a été créé selon l'image de celui qui l'a créé. Dans l'homme nouveau, il n'y a pas de péché. Dans l'homme nouveau, il y a les attributs divins. L'homme nouveau en moi, c'est le futur candidat pour le ciel. Dieu a mis dans l'homme nouveau le Saint-Esprit. Et en mettant le Saint-Esprit dans l'homme nouveau, Dieu l'a mis comme étant le gage de mon futur héritage. Dieu me l'a donné pour le jour de la rédemption et le Saint-Esprit en moi est venu déposer les arts. Ma vieille nature, c'est pour le cimetière et la terre. Et quand je fais les enterrements, quelquefois je dis, arrive au cimetière, devant la tombe, dans quelques instants, nous allons remettre à la terre ce qui est à elle. L'enveloppe pour la terre. Mais l'âme du défunt, du racheté, dans le repos. En attendant la résurrection des justes et la nouvelle enveloppe qui réunit avec mon âme sauvée va constituer non pas Claude Gentil, mais cet être semblable à Jésus qui est appelé à vivre avec lui pour l'éternité. Je ne sais pas si vous trouvez quelque chose de plus excellent que ce que je vous dis, mais je sais qu'une chose, c'est qu'en Jésus-Christ, frères et sœurs, en Christ, en Jésus, Dieu nous a tout donné pleinement. Et quand je comprends cela, et quand je le vis, alors les épreuves, certes, je vais en être confronté, mais je ne vais pas les laisser m'arrêter, que Dieu soit béni. Donc Dieu s'approche ce soir en grâce. Et en s'approchant en grâce, il manifeste à mon égard deux choses. Premièrement, sa miséricorde, s'arrêtant sur mon besoin, et sa compassion, usant à mon égard de bonté par rapport à la souffrance. Et tout cela, c'est parce que je suis objet de son alliance. Regardez avec moi Lamentations, le chapitre 4. Et lisez avec moi, frères et sœurs en Christ, des éléments qui sont un petit peu le témoignage du vécu du prophète Jérémie avant d'arriver à ce que nous avons lu. Du jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché et tu m'as dit. Regardez avec moi ce qu'il mentionne un peu plus haut. Lamentations, le chapitre 3, verset 4. Pardon? Lamentations, chapitre 3, verset 4. Alors, qu'est-ce que j'avais dit? Chapitre 4, verset 4. Alors, vous voyez bien que le pasteur Gentil s'est trompé. Mais il ne s'est pas trompé trop longtemps, puisqu'il vous a donné la bonne référence. Lamentations 3, puisque c'est dans Lamentations 3 que nous sommes ce soir. Alors, verset 4. Il a fait dépérir ma chair et ma peau. Il a brisé mes os. Il a bâti autour de moi. Il m'a environné de poison et de douleur. Il me fait habiter dans les ténèbres, comme ceux qui sont morts dès longtemps. Il m'a entouré de murs pour que je ne sorte pas. Il m'a donné de pesantes chaînes. J'ai beau crier et implorer du secours, il ne laisse pas accès à mes prières. Donc cela veut dire, au travers de toute cette confession, il fait mention de la manière qu'il vit l'épreuve. Mais malgré tout cela, il n'est pas dans la désespérance profonde. Pourquoi? Parce qu'il se souvient, dans sa misère, à l'absinthe et au poison, quand j'y pense, quand mon âme est abattue au-dedans de moi, alors j'arrive à cette réflexion, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Celui qui m'a appelé dès le commencement, même si je suis descendu au fond du trou, même si mes adversaires m'ont fait une victime d'injustice, alors tôt ou tard, Dieu se lèvera et me fera justice parce que je suis dans son plan. Gloire à Dieu! Allez, on continue maintenant. On passe au verset 31. Lamentations 3, verset 31. Car le Seigneur ne rejette pas à... Ça veut dire qu'il y a un temps d'épreuve. Un temps d'épreuve que Dieu permet. L'épreuve est toujours permise par Dieu pour un temps. Car le Seigneur ne rejette pas à toujours. Point. Mais cependant, je dois comprendre que lorsqu'il afflige, il a compassion selon sa grande miséricorde. C'est ce que je viens de vous dire. Il s'approche en grâce et il accompagne sa grâce de sa miséricorde et de sa compassion. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Et puis voici ce qu'il rajoute. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, question, le Seigneur ne le voit-il pas? Est-ce que Dieu est aveugle? Non, il n'est pas aveugle, il voit. Mais cependant, malgré ce qu'il voit, cela ne le fait pas bouger avant le temps. Il continue son travail en permettant l'épreuve. Un peu comme il le permet dans ta vie ce soir, dans ta vie personnelle, dans ton foyer, avec le voisin, que sais-je d'autre, même s'il le permet et que tes yeux ne voient rien qui amène le changement, Dieu te rappelle néanmoins qu'il contrôle et qu'il maîtrise tout. Mais il faut que l'épreuve fasse son travail dans le dessein que Dieu s'est fixé pour ta vie, de t'affermir après t'avoir affranchi et de conduire les éléments pour que tu en sois bénéficiaire, que Dieu soit béni. Car ce n'est pas volontiers qu'il humilie et qu'il afflige les enfants des hommes. Quand on foule aux pieds tous les captifs du pays, quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Et puis voici une question qui se pose. Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur ne l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Cela est difficile à comprendre pour certains enfants de Dieu. Mais quand je lis cela, je dois comprendre surtout que Dieu est souverain sur toute vie. Que même des situations qui me sembleraient incontrôlables, Dieu maîtrise et il va faire concourir cela à mon bien jusqu'à ce que des leçons spirituelles qu'il veut me faire expérimenter, comprendre, recevoir et vivre produise en moi le travail de piété pour que je puisse grandir dans ma vie d'enfant de Dieu. Au jour où je t'ai invoqué, tu t'es approché. Ce soir, Dieu t'approche, s'approche de toi comme ton Père. Et puis, tu as dit, c'est ce que nous appellerons une parole dite à propos qui, dans le dessein de Dieu, est toujours suivie des faits. Et peut-être en ce qui te concerne, si Dieu t'a parlé ce soir, je crois que c'est pour te rappeler qu'il est en train d'agir en ta faveur et que dans les temps à venir, dans un avenir peut-être beaucoup plus proche que tu ne le crois, sa main se déploiera. Comme le psalmiste le dit dans le psaume 57, je crie au Dieu très haut qui agit en ma faveur. Il m'enverra du ciel le salut, tandis que mon persécuteur se répand en outrage. Dieu enverra sa bonté et sa fidélité. Amen.